Les observatoires ont été pendant longtemps des lieux réservés aux hommes. Ces femmes que vous voyez ici sont parmi les premières à avoir forcé leurs portes. Elles sont ce qu'on appelle des computers. Bien avant l'invention de l'ordinateur, elles calculaient et mesuraient les positions et les caractéristiques de milliers d'étoiles sur des plaques photographiques. Nous sommes un peu avant 1900, à l'observatoire de l'université de Harvard, près de Boston, aux États-Unis. À cette époque-là, l'astronomie avait entamé une profonde mutation. C'en était fini de l'astronome solitaire, qui dessinait sur son carnet ce qu'il voyait à l'oculaire de son télescope. L'arrivée de la photographie transformait la profession. Grâce à ces plaques à la gélatine, inventées en 1871, avec de longs temps de pause, on pouvait voir des détails insoupçonnés sur les nébuleuses, comme déjà ici en 1888 sur cette photographie de la grande nébuleuse d'Orion. Le directeur de l'observatoire de Harvard, Charles Pickering, s'était lancé dans la réalisation d'un catalogue systématique des étoiles avec des renseignements précis sur leur luminosité et leurs propriétés. Cela représentait des milliers de plaques de verre comme celle-ci, où la lumière des étoiles est photographiée à travers un spectroscope qui la décompose. Toutes les petites traînées que vous voyez sont des arcs-en-ciel produits par chaque étoile, dont l'allure dépend de leur température et de leur composition. Avec ses quelques assistants, Pickering se trouva rapidement débordé. Il décida donc d'embaucher des femmes. Il paraît qu'il avait eu l'idée en remarquant que sa bonne, une immigrante écossaise nommée Williamina Fleming, était plus méticuleuse et travaillait plus sérieusement que ses assistants. Pickering était un homme pratique, car comme elles étaient moins bien payées, il avait les moyens de recruter plus de femmes que d'hommes pour faire les indispensables travaux de classement, de traitement des images et de calcul. Mais ce n'était tout de même pas très bien vu dans la bonne société de Boston, où paraît-il, on parla même du harem de Mr. Pickering. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit d'être astronomes, même pas de regarder au télescope. Mais plusieurs de ces femmes brisèrent ce tabou et devinrent des astronomes professionnels, comme Mrs. Fleming, l'ancienne domestique, qui avait pris la tête de l'équipe. Et certaines de ces femmes firent d'importants travaux, telle Anna Jump Cannon, qui est à l'origine d'une classification des étoiles qu'on utilise toujours aujourd'hui. Quant à Henrietta Leavitt, que vous voyez ici, elle va faire une découverte qui va déclencher une révolution dans notre connaissance de l'univers. Pickering lui avait donné la mission de suivre, sur des plaques photographiques, des étoiles variables, dont la luminosité donc varie périodiquement. Elle catalogua ainsi des milliers d'étoiles situées dans les nuages de Magellan, des nébuleuses visibles à l'œil nu dans le ciel de l'hémisphère sud. Elle découvrit que la lumière des étoiles variables les plus lumineuses variait systématiquement plus lentement, plusieurs dizaines de jours, que les moins lumineuses, dont le cycle n'était que de quelques jours. Elle établit alors une loi reliant précisément leur luminosité et la durée du cycle. Cela semble un peu technique, mais il faut rappeler qu'un des problèmes majeurs de l'astronomie, c'était de trouver des méthodes pour évaluer la distance des étoiles. Est-ce qu'une étoile est brillante parce qu'elle est près ou parce qu'elle est très lumineuse? Alors pour les étoiles les plus proches, on avait commencé à trouver des méthodes. Mais comment faire pour les nébuleuses plus lointaines qu'on photographiait un peu partout au télescope? La loi trouvée par Mrs. Leavitt donnait un instrument de mesure nouveau en permettant de déduire, à partir de la variation de sa lumière, la luminosité réelle de certains types d'étoiles variables. Et donc si on trouvait dans une nébuleuse lointaine une étoile variable de ce type, on pouvait en déduire la distance de cette nébuleuse. Ce procédé permit de mesurer les distances jusqu'à des centaines de milliers d'années-lumière de nous, c'est-à-dire 100 000 fois plus loin que les étoiles les plus proches. L'arrivée de ces femmes dans les observatoires, au départ comme des ouvrières, des petites mains de l'astronomie, n'était qu'un aspect parmi d'autres des transformations de la science au XXe siècle. La science devenait industrielle. Ce n'était plus un travail individuel, mais un travail d'équipe. En astronomie comme ailleurs, il fallait maîtriser des techniques très variées, non seulement l'optique et la mécanique, mais aussi la photo, la spectroscopie, la chimie. Et il fallait de l'argent. Ce n'est pas par hasard que c'est aux États-Unis, le pays où le capitalisme se développait à la plus grande échelle à cette époque-là, que des progrès extraordinaires vont être faits dans notre connaissance de l'univers. Andrew Carnegie était un capitaliste, un de ceux qu'on appelait les barons voleurs. Il avait construit un empire industriel de l'acier en s'appuyant sur la violence, le pillage des fonds publics et l'exploitation forcenée des travailleurs. En 1892, il avait fait envoyer contre les ouvriers en grève les mercenaires armés de l'agence Pinkerton, puis finalement l'armée. En 1900, il était l'un des hommes les plus riches du monde. Et il créa des fondations pour subventionner les arts et les sciences, peut-être pour faire oublier l'origine de sa richesse. C'est ainsi qu'il donna des dizaines de millions de dollars pour financer la création d'un observatoire sur le mont Wilson, une des montagnes qui domine Los Angeles. En 1917, on va y inaugurer ce qui restera, pendant plus de 20 ans, le plus grand télescope du monde. Ici, on voit comment on a dû monter le grand miroir, très fragile, de 2,50 m de diamètre, en haut de la montagne. C'était la première fois qu'on faisait une opération pareille, car auparavant, les observatoires étaient plutôt dans les villes. Mais une fois monté au sommet et installé sur le télescope, ce grand miroir allait donner des images impressionnantes, grâce à la photographie à longue pause. On pouvait désormais avoir ces images bien nettes d'amas d'étoiles ou de nébuleuses lointaines, qui auparavant apparaissaient comme des taches floues. Et donc, on pouvait y discerner des étoiles individuelles, dont certaines étaient variables, et donc appliquer la technique de Mrs. Leavitt pour calculer leur distance. C'est grâce à cette méthode que l'astronome Harlow Shapley put établir que le Soleil et nous-mêmes étions plutôt en périphérie d'un énorme ensemble d'étoiles en forme d'assiette renflée au milieu, la galaxie. On appelle aussi la Voie lactée, puisque la trace blanche qu'on voit la nuit à l'œil nu, quand on a la chance d'échapper aux villes et à leurs lumières parasites, eh bien c'est le plan de cette galaxie qu'on voit par la tranche. Shapley pensait avoir ainsi cartographié tout l'univers, avec cette galaxie gigantesque dont le diamètre est de plus de 100 000 années-lumière, avec ses satellites comme les nuages de Magellan. Mais tous les astronomes n'étaient pas de cet avis, car on observait certaines nébuleuses qui semblaient très lointaines. Certains, comme par exemple Curtis, supposaient donc que c'était d'autres galaxies comparables à la nôtre. Le 26 avril 1920, le Muséum d'histoire naturelle de Washington organisa un grand débat public sur la question entre les deux astronomes, Shapley et Curtis, qui resta dans les annales. La discussion passionnait le public. Finalement, ce sont de nouvelles mesures faites au mont Wilson dans les années suivantes par un autre astronome, Edwin Hubble, qui vont trancher la question. Il identifia suffisamment d'étoiles variables dans la célèbre nébuleuse d'Andromède pour pouvoir y appliquer la méthode de Mrs. Leavitt. Et il calcula qu'elle était à 2 millions d'années-lumière de nous, et que d'autres nébuleuses étaient encore bien plus lointaines. On commençait à comprendre que l'univers était formé d'une multitude de galaxies, des énormes rassemblements d'étoiles. En quelques années, aux alentours de 1920, ce qu'on estimait être notre univers a vu sa taille multipliée en gros par 1 000. Et nuit sans lune, loin des villes, entre août et janvier, vous pouvez voir la galaxie d'Andromède dans le ciel. Alors bien sûr, vous ne verrez pas cela, cette photo d'Andromède prise avec les moyens les plus modernes, mais à l'œil nu, vous pourrez déjà voir une tache pâle. Elle est à plus de 2 millions d'années-lumière. Cela veut dire que la lumière qui arrive dans votre œil a cheminé 2 millions d'années pour vous parvenir. C'est quelque chose d'extraordinaire, non? 2 millions d'années de voyage et pile dans votre œil. Et aujourd'hui, avec les plus grands télescopes, on arrive à observer des galaxies à plus de 10 milliards d'années-lumière. L'univers est véritablement immense. Mais il y a autre chose. En voyant très loin, on voit aussi il y a très longtemps dans l'histoire de l'univers. Les progrès des grands télescopes comme celui du Mont Wilson vont permettre une révolution dans l'histoire de nos conceptions de l'univers. Ils vont permettre d'aborder une question nouvelle, celle de son histoire. L'étude des galaxies lointaines amena rapidement Edwin Hubble à une autre découverte fondamentale. Il se rendit compte que plus les galaxies étaient lointaines, plus les fréquences caractéristiques de la lumière qu'elles émettaient étaient décalées vers le rouge. Cette observation ne pouvait s'expliquer qu'en supposant qu'elles s'éloignaient de nous à grande vitesse. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne de nous rapidement. Cette observation, qu'on a ensuite confirmée très largement, a conduit à l'idée que notre univers était en expansion. Mais alors, ça conduisait aussi à une autre idée, qui est que dans le passé, notre univers était différent de ce qu'il est aujourd'hui. Jusque-là, les astronomes avaient laissé aux philosophes et aux religieux les spéculations sur l'origine de l'univers. On étudiait un cosmos qui paraissait assez stable. Ah bien sûr, depuis quelque temps, comme j'ai raconté dans l'épisode précédent, on avait compris que la Terre et le système solaire lui-même n'avaient pas toujours existé et qu'ils avaient eu une très longue histoire. Mais l'univers lui-même avait-il une histoire? Et comment en parler scientifiquement? Au moment où on commence à utiliser le télescope du Mont Wilson, un certain Albert Einstein vient de terminer sa théorie de la relativité générale. Cette théorie vient d'une réflexion profonde du célèbre savant sur la gravitation, cette loi universelle dont j'ai déjà parlé, qui explique aussi bien la chute d'une pomme que le mouvement de la Terre autour du Soleil. Einstein avait montré qu'on ne pouvait plus considérer l'espace et le temps séparément, comme à l'époque de Newton. Ils sont profondément liés. Et de sa théorie de la relativité générale, il déduisait que cet espace-temps avait une géométrie qui dépend de la matière qu'il contient. Au voisinage d'une étoile, ou comme ici de la Terre, l'espace-temps est courbé. Einstein réinterprétait donc la gravitation comme une courbure de l'espace-temps par la matière. Cela paraît bien abstrait, mais dès 1919, une conséquence mesurable de la théorie d'Einstein va être vérifiée. À l'occasion d'une éclipse totale de Soleil, des mesures très délicates montrèrent que la lumière des étoiles visible à proximité immédiate du bord du Soleil au moment de l'éclipse subissait bien une déviation inexplicable par la théorie classique. Et depuis, on a eu bien d'autres preuves qui montrent non seulement que la lumière est déviée par des grandes masses comme des trous noirs, mais aussi que le temps s'écoule plus lentement à leur voisinage. Einstein avait établi une équation mathématique pour décrire tous ces phénomènes. À gauche, vous avez quelque chose qui traduit la courbure de l'espace-temps. Et à droite, vous avez le contenu de l'univers en matière et en énergie. Vous voyez, c'est très simple. Dans cette équation, comme ça arrive souvent dans l'histoire des sciences, il y avait une richesse, des possibilités, que son auteur, Einstein lui-même, n'avait pas perçues. C'est un citoyen soviétique, Alexandre Friedman, qui, à Petrograd, à peine sorti de la tourmente de la guerre civile en 1922, va faire des calculs à partir des équations d'Einstein qui montrent qu'en fonction du contenu de l'univers en matière, l'univers ne sera pas stable, mais pourra soit être en expansion, soit au contraire se rétracter sur lui-même sous l'influence de son contenu. Quelque temps plus tard, un curé belge, l'abbé Lemaître, féru d'astronomie, va arriver lui aussi à la même idée et va même montrer qu'on peut mathématiquement envisager que l'univers actuel serait issu d'un atome primitif qui aurait en quelque sorte explosé. Au départ, ces idées ne plaisaient pas du tout à Einstein, qui va écrire que Friedman s'était trompé dans ses calculs. Mais finalement, il dut se rendre à l'évidence, les calculs de Friedman étaient justes. Et c'est surtout avec les observations de Hubble, que les galaxies lointaines semblaient nous fuir systématiquement, qu'Einstein va prendre au sérieux les idées de Friedman, qui malheureusement était mort du typhus entre-temps, et celles de l'abbé Lemaître, qui avait poursuivi son travail. Et donc, On a commencé à mettre tout ça bout à bout, la théorie d'Einstein et les observations, et à comprendre que notre univers n'est pas statique et qu'il est dans une phase d'expansion. Et cela voulait dire, comme le pensait le maître, que l'univers que nous connaissons est issu d'un univers qui était ramassé, extrêmement chaud et concentré, à une époque qu'on date aujourd'hui à plus de 13 milliards d'années. Et c'est ce qu'on a appelé la théorie du Big Bang. Cette théorie évoquait l'idée d'une création de l'univers. Et à juste titre, cela entraînait des réticences. Le fait qu'un curé comme l'abbé Lemaître ait joué un rôle important pour la promouvoir augmentait la méfiance de certains scientifiques. Et c'est Fred Hoyle, un astronome anglais qui était hostile à la théorie et qui cherchait des alternatives, comme ici dans ce texte, pour expliquer les observations, qui trouva le nom de Big Bang en 1949 dans une émission à la BBC. Eh oui, à ce moment-là, 20 ans après les observations de Hubble, la communauté scientifique n'était pas encore unanime. Mais des faits nouveaux ont convaincu ensuite les scientifiques de la réalité du Big Bang. D'abord, les développements de la physique nucléaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient abouti à la bombe atomique et à la dévastation d'Hiroshima et de Nagasaki, ont aussi permis de comprendre ce qui se passait dans les étoiles. On a vu dans l'épisode précédent qu'au cœur des étoiles se déroule une cuisine nucléaire qui fabrique des éléments lourds à partir des éléments légers. Les noyaux de l'atome d'hydrogène, le plus léger, fusionnent pour former des noyaux d'hélium, et ainsi de suite. La physique nucléaire permettait de bien comprendre tout cela, mais il restait une énigme dans la composition des étoiles. Il y avait trop d'hélium, plus d'un quart de leur masse, qui ne pouvait pas avoir été fabriqué dans les générations précédentes d'étoiles. On ne savait pas d'où il venait. Eh bien, en 1948, le grand physicien George Gamow, avec ses collègues, montra que la théorie du Big Bang pouvait expliquer cette énigme. L'hélium n'avait pas été produit dans les étoiles, mais dans les premières minutes de l'expansion de l'univers. Une minute après le Big Bang, l'univers ne contenait pas encore d'atomes. Il était formé d'une soupe de noyaux d'hydrogène et de particules simples, à une température de quelques milliards de degrés. Puis, le refroidissement a amené à des conditions ressemblant à celles du cœur des étoiles, où les noyaux d'hydrogène commencèrent à fusionner pour produire des noyaux plus lourds, d'hélium et de quelques autres éléments légers, le lithium par exemple. Mais ces réactions nucléaires n'ont duré que quelques minutes. Et après, tout cela s'est figé, l'univers étant devenu trop froid pour que les réactions nucléaires continuent. Et donc il a fallu attendre ensuite, pour que les réactions nucléaires se rallument, la formation des premières étoiles, bien plus tard dans l'histoire de l'univers. Mais la découverte qui fit vraiment basculer la communauté scientifique en faveur du Big Bang fut faite en 1965. À cette époque, on commençait à développer des communications par satellite. Et ces deux ingénieurs des laboratoires Bell, Penzias et Wilson, essayaient de comprendre pourquoi leurs grandes antennes recevaient des parasites électromagnétiques dont ils ne pouvaient pas se débarrasser. Ils envisagèrent toutes les possibilités, y compris l'influence des fientes que les pigeons déposaient sur leur antenne. Mais ils se sont rendus compte qu'ils captaient des ondes radio qui ne venaient pas de l'activité humaine, ni du Soleil, ni même de notre galaxie. Elles semblaient véritablement venir de partout. L'enquête menée par les deux ingénieurs finit par les mener aux astrophysiciens. Et parmi eux, des collaborateurs de George Gamow, toujours lui, Alfer et Hermann, avaient prédit qu'une des conséquences de l'expansion de l'univers était justement qu'on devrait détecter de telles ondes radio. Lorsque la température de l'univers était passée en dessous de 3000 degrés, les grains de lumière, les photons, ont cessé d'être absorbés et réémis en permanence par les atomes qui les entouraient. Ils n'avaient plus assez d'énergie pour cela. Et donc ils ont continué leur chemin sans encombre. Avec l'expansion de l'univers, ils se sont progressivement refroidis, et ce sont eux qu'on observe aujourd'hui sous forme d'ondes radio. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Dans quelques directions que l'on regarde, on peut écouter sur nos antennes radio ce rayonnement arrivé des confins de l'univers qui a été émis sous forme de lumière il y a plus de 13 milliards d'années, 380 000 ans après le Big Bang. Le modèle du Big Bang est aujourd'hui accepté, avec différentes variantes, par l'écrasante majorité de la communauté scientifique. Et il faut bien comprendre que la science, quand elle parle de l'expansion de l'univers ou du Big Bang, ne parle pas de création du monde. Quand un physicien utilise le mot « origine de l'univers » ou « naissance de l'univers » à propos du Big Bang, en fait, il parle des origines de l'univers dans lequel on est. Mais la physique actuelle ne parle pas d'origine, et encore moins de création du monde. Bien sûr, les modèles mathématiques peuvent envisager comme une schématisation cet instant zéro. Mais on sait aussi que nos lois physiques ne sont pas valables quand on arrive tout près de cet instant. Pour pouvoir s'en approcher plus, il faudra inventer de nouvelles théories scientifiques qui sont aujourd'hui plus des spéculations que des théories bien étayées. Certaines de ces théories envisagent d'ailleurs le Big Bang comme un rebondissement d'un univers qui se serait auparavant contracté. D'autres envisagent des univers parallèles. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'est établi. Mais par contre, ce qui est établi, c'est qu'il y a une évolution de la matière partant des particules élémentaires pour en arriver aux étoiles et aux galaxies et à la formation d'une multitude de planètes autour de ces étoiles, dont la nôtre, qui a pu ensuite développer la vie et une forme d'intelligence. Depuis les années 60, la recherche sur l'histoire de l'univers a bien entendu fait encore beaucoup de progrès. Les télescopes géants sont aujourd'hui bien plus performants que les anciens. Et on utilise des antennes radio, des satellites, capables de voir des rayonnements invisibles à nos yeux. Les grands projets sont des collaborations internationales dans lesquelles les scientifiques mettent en commun des observations, qui deviennent ainsi le patrimoine de l'humanité. C'est ainsi qu'on a pu construire l'image d'un trou noir, l'année dernière, grâce à un réseau d'antennes coordonnées minutieusement à l'échelle de la planète. Depuis Galilée, les observations menées dans le ciel dialoguent aussi en permanence avec les expériences menées sur Terre. Simplement aujourd'hui, on ne fait plus des expériences avec des boules en bronze sur des plans inclinés pour étudier les lois du mouvement, mais on utilise des énormes machines, comme ici le LHC, où on accélère des particules dans un anneau de 27 km de long pour les amener en collision avec des énergies fabuleuses, collisions dont les résultats sont étudiés dans des détecteurs grands comme des cathédrales. Dans ces collisions, les physiciens essaient de recréer des conditions nous rapprochant de ce qui s'est passé peu après le Big Bang. Et à partir de tout ce qu'ils observent, les théoriciens ont construit des modèles de plus en plus complets qu'ils confrontent à ce qu'on observe dans l'univers. Les satellites d'observation qui scrutent l'univers lointain, comme le satellite Hubble, nous permettent de voir, il y a plus de 10 milliards d'années, un univers plus jeune qu'aujourd'hui, où les premières étoiles ont commencé à briller et les galaxies à se former. C'est aussi une confirmation de l'évolution de l'univers. Et le rayonnement fossile, découvert dans les années 60, a depuis été étudié sous toutes les coutures. On a scruté ces petites irrégularités, qui sont cartographiées ici par le satellite Planck, et les astrophysiciens essayent de comprendre comment les galaxies et l'univers tel qu'on le connaît ont pu apparaître à partir de ces irrégularités dans la répartition de la matière. Bien sûr, bien des questions nouvelles sont apparues. Les astrophysiciens ont dû supposer qu'il y avait eu une phase initiale d'inflation très brutale, une infime fraction de seconde après le Big Bang, sans laquelle ils ne pouvaient pas expliquer les observations. Ils ont dû aussi supposer l'existence d'une mystérieuse matière noire qu'on a cherchée dans les accélérateurs de particules, mais sans succès jusqu'à aujourd'hui. On ne connaît pas sa nature, mais on a de multiples preuves indirectes de son existence. Et dans les années 2000, les nouvelles mesures de l'expansion de l'univers ont montré qu'elle s'accélérait, ce qui a obligé les théoriciens à imaginer une énergie sombre, encore plus mystérieuse que la matière noire. Tout cela montre que nous sommes encore très ignorants. Et bien sûr, il ne manquera pas de gourous ou d'amateurs d'explications religieuses pour profiter des nouvelles questions que la science a ouvertes pour nous refiler leur vieille camelote ou leur recette magique. Et bien sûr, il y aura aussi des ingénieurs à la retraite qui sur Internet expliqueront qu'ils ont toutes les explications, mais qu'ils sont persécutés par la science officielle. Eh bien, il faut apprendre à faire le tri dans tout ce fatras. Bien sûr, on parle de théorie du Big Bang, comme pour la relativité et pour l'évolution. Et du coup, parfois les gens comprennent que c'est une simple hypothèse, qui en vaut bien une autre, et que la vision de l'univers que nous présentent les scientifiques n'est pas plus pertinente que celle des différentes mythologies. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ces théories scientifiques sont le résultat du travail acharné de milliers de scientifiques, dont quelques-uns sont ici, sur tous les continents, pour tenter de construire une vision cohérente de l'univers et de notre histoire qui puisse être compatible avec toutes nos observations dans tous les domaines. Donc tout ne se vaut pas. Bien sûr, certaines conceptions actuelles seront sans doute mises en cause. Les scientifiques estiment en tout cas qu'il va falloir modifier certaines hypothèses, ou alors intégrer nos modèles actuels dans une nouvelle théorie plus large. Mais aucun scientifique sérieux ne pense que la science a fait fausse route depuis un siècle et qu'il faut renverser tout l'édifice pour reconstruire tout à zéro. Même Einstein, quand il a repensé la gravitation, n'a pas renversé le travail qu'avait fait Newton avant lui. Simplement, il a élargi le cadre et nous a permis de voir les choses autrement. Peut-être la réponse à certaines questions viendra-t-elle des nouvelles techniques d'astronomie qui sont développées aujourd'hui, comme l'observation des ondes gravitationnelles, ces vibrations de l'espace-temps qu'on commence à capter et analyser, ou de ces particules furtives, les neutrinos, qui nous traversent en permanence en grande quantité, mais qui sont tellement difficiles à arrêter que pour en capter quelques-unes, il faut construire ces énormes détecteurs souterrains. Peut-être, sans doute même, il faudra de nouvelles théories audacieuses pour démêler les difficultés qui existent aujourd'hui. Mais alors que les religions et les gourous ont toutes les réponses à l'avance, eh bien en science, chaque découverte, chaque réponse à un problème ouvre de nouveaux horizons, mais pose en même temps encore plus de nouveaux problèmes et amène de nouvelles questions. C'est cela qui fait avancer les choses. Et ce qui est sûr, c'est que cette aventure est loin d'être terminée. Et voilà, c'est déjà la fin du troisième et dernier épisode de cette série, Nos origines cosmiques. Alors, y aura-t-il une saison 2? En saurons-nous plus sur cette ténébreuse affaire de la matière noire? Eh bien, l'avenir le dira. À bientôt !